vendredi.
Jusqu'à 13h.
Il suffit de demander.
Sur Radio Lac.
Nous sommes mardi et l'équipe de teamnutrition.ch est en studio avec notre diététicienne de ce mois-ci, Paulina Sagalovic. Bonjour Paulina.
Bonjour.
Aujourd'hui, on parle et on va savoir... Vous allez nous expliquer en fait ce qu'est exactement le syndrome de l'intestin irritable. Apparemment, ça touche beaucoup de monde.
Oui, oui, ça touche 10 à 15% de la population. Et puis du coup, donc, c'est un trouble gastro-intestinal chronique qui est caractérisé par des douleurs au niveau du tube digestif, des ballonnements, des inconforts, des troubles du transit, donc diarrhée, constipation, il peut y avoir une alternance entre les deux ou un des deux. Et puis, pour faire le diagnostic, en fait, on va surtout essayer d'éliminer tout autre type de maladie, donc grâce à une prise de sang notamment. Et pour poser le diagnostic, il faut que ça soit présent au moins un jour par semaine, les symptômes depuis 3 mois.
Qu'est-ce qui provoque ces symptômes, en parlant de symptômes ?
Oui, alors donc ce sera, on appelle ça l'hypersensibilité viscérale. Donc en fait, les patients, ils vont ressentir les stimuli que certaines personnes vont ressentir comme normaux, mais d'une manière trop forte. Donc en fait, ils vont être trop sensibles du tube digestif.
D'accord.
Il y aura l'accélération et le ralentissement du transit. Il y aura des facteurs psychologiques. Donc on sait que
ouais, ça fait beaucoup, ça.
Quand on est stressé, enfin ouais. Tout le monde a déjà eu ça. On a un examen, ben on a besoin d'aller plus aux toilettes, quoi. Et puis il y a aussi la flore intestinale qui va souvent être altérée dans cette maladie-là.
Ça, ça vient de l'alimentation ?
Alors,
ou pas du tout. Ou c'est un lien direct ou pas ?
On ne sait pas. Ça, scientifiquement, on n'arrive pas à dire quel est le lien entre le déséquilibre et le syndrome de l'intestin irritable. Ça peut être dans les deux sens, en fait.
Et les sucres ?
Oui, alors en fait, au niveau de l'alimentation, il y a certains sucres justement qui vont jouer un rôle et puis qui vont être mal digérés par les intestins. Et puis ça, ça peut provoquer justement ces symptômes. Et puis c'est ça qu'on va pouvoir éliminer dans l'alimentation. Et ça va beaucoup soulager souvent les patients. Donc on appelle ça les FODMAP.
Donc ça, c'est les sucres non absorbés.
Oui, exactement.
Et il existe un régime pauvre en FODMAP.
Oui, exactement. Donc en fait, les FODMAP, c'est donc un acronyme anglais pour dire fermentable, oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide et polyol. Donc c'est des noms de sucre. Et puis, ce sera présent dans toute une série d'aliments. Il y a le blé, le seigle, l'orge, les légumineuses, donc lentilles, pois chiches, tout ça. Le lactose, donc les produits laitiers qui vont contenir le lactose, qui est un sucre. Le fructose, c'est le sucre des fruits. Et puis après, on a tout ce qui est polyol et toute cette série-là, c'est des édulcorants en fait, mais qui sont naturellement présents dans les fruits.
Ouais.
C'est un sucre naturel, mais qui va être utilisé aussi comme édulcorant dans des bonbons, des choses comme ça.
Si on est intolérant au lactose et au FODMAP, ça se passe comment ?
Alors, en fait, c'est possible d'être intolérant au lactose quand on est intolérant au FODMAP.
Ah, d'accord, oui.
Donc, c'est possible d'avoir les deux parce qu'il y a un lien, du coup, mais c'est aussi possible d'être seulement intolérant au lactose. Puis, c'est la même chose qu'une intolérance au lactose classique. Il faudrait enlever tous les produits qui contiennent du lactose, donc plutôt consommer sans lactose.
On va marquer une petite pause musicale. On se retrouve dans 3 minutes et on poursuit le sujet.